Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Académie MEDEF. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pascale Anthony qui va nous parler du fonctionnement des finances et de la fiscalité locale. Ce webinaire va durer une heure, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Marie-Pascale se fera un plaisir d'y répondre. Également, pour le bon déroulement de ce webinaire, nous vous remercions de maintenir vos micros coupé. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur le chat. Merci à tous pour votre présence et bon webinaire.
Bonjour à tous. Oui, surtout n'hésitez pas pour les questions. Au fur et à mesure, je préfère répondre au fil de la présentation plutôt que de garder les questions pour la fin, au moment où on n'est plus très en phase avec ce qui a été dit, on ne sait plus pourquoi la question est posée. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est un peu de vous faire un panorama sur le fonctionnement des finances, les compétences des collectivités, des différentes collectivités locales, et nous allons commencer par les compétences. Donc les collectivités locales, il y en a à 4 niveaux, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, il y en a d'autres, mais qui ont des fonctions un peu à part et que je n'évoquerai pas. Donc les communes, les compétences des communes, c'est l'urbanisme, le logement, l'environnement, la gestion des écoles maternelles et élémentaires. Globalement, les communes ont une compétence générale pour tous les sujets qui concernent leur seul territoire. Les intercommunalités, donc des regroupements de communes, ont pour compétence le développement économique et toutes les compétences qui leur sont transférées par les communes. Les départements, c'est essentiellement l'action sociale, tout ce qui touche à l'enfance, au handicap, aux personnes âgées, l'attribution du RSA, les infrastructures, les ports, les routes, les aérodromes, et la gestion des collèges, et évidemment une compétence d'aide aux communes qui sont situées sur leur territoire. Et enfin, les régions, développement économique, aménagement du territoire, les transports non urbains, la gestion des lycées, la formation professionnelle et la solidarité. Donc on a ces 3 niveaux de collectivité. Pourquoi 3 niveaux? Parce que commune, intercommunalité, c'est le même niveau, qui, à côté des compétences spécifiques que je viens d'évoquer, se partagent des compétences dans le domaine du sport, du tourisme, de la culture, de la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire. Donc le budget des communes, comment ça marche? Les finances locales sont une partie des finances publiques. Quand on parle du déficit public global, il y a tout ce qui est État, mais tout ce qui est aussi APUL, administration publique locale, dont les collectivités locales, mais pas que, il peut y avoir tout ce qui est hôpitaux. Donc les finances locales, c'est tout ce qui couvre les dépenses et les recettes des collectivités locales. Et tous les budgets des collectivités locales sont divisés en 2 parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et chaque section doit être à l'équilibre. Il peut y avoir un excédent, dans ce cas-là, c'est la capacité d'autofinancement de la collectivité. Mais contrairement au budget de l'État, un budget local ne peut pas être en déficit. Et donc, contrairement à l'État encore, on ne peut pas utiliser, les collectivités locales ne peuvent pas utiliser la dette pour servir de variable d'ajustement. Donc les dépenses de fonctionnement ne peuvent pas être équilibrées par de la dette. Il y a des règles très précises qui s'appliquent au budget des collectivités locales. Elles sont 5. Donc la règle d'équilibre, celle que je viens de citer, équilibre entre recettes et dépenses, et entre les différentes parties fonctionnement et investissement, le principe d'annualité budgétaire, c'est vrai pour toute la sphère publique, le principe d'universalité, les dépenses et les recettes sont intégralement prévues dans le budget voté, donc c'est dans le budget, il ne peut pas y avoir de plus et de moins en dehors du budget, le principe de spécialité, l'objet de chaque dépense doit être très précisément définie, ça ne peut pas être une dépense générale, et enfin un contrôle de légalité par le préfet du département dont dépend la collectivité. Donc, comme je vous le disais, nous avons deux sections, enfin deux sortes, comme tous les budgets, les dépenses et les ressources. Les dépenses de fonctionnement, donc elles sont divisées en deux, les dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, c'est tout ce qui recouvre les dépenses de frais de personnel, d'entretien, de fourniture, de fonctionnement des diverses compétences de la collectivité, les intérêts d'emprunt, tout ce qui relève du fonctionnement de la collectivité. Et les dépenses d'investissement, c'est tout ce qui est travaux d'équipement, acquisition immobilière ou mobilière, remboursement des emprunts, etc. Les dépenses des collectivités locales en 2021, vous les avez là sur ce graphique. Donc, on a un total de 251 milliards d'euros. Vous avez des dépenses d'investissement de 57,44 milliards d'euros. Le remboursement de la dette, donc des emprunts des collectivités locales, un peu plus de 14 milliards d'euros. Et les dépenses de fonctionnement, 179 milliards. Donc, vous voyez que le poste dépenses de fonctionnement est vraiment le plus important. Et je ne vais peut-être pas détailler toutes les dépenses, on vous passera les slides, mais on a dépenses d'équipement 36 milliards, dépenses d'intervention 71 milliards, les charges financières, donc les intérêts d'emprunt 3 milliards, les frais personnels qui sont un des postes les plus importants dans les collectivités, 66 milliards, donc un peu moins de la moitié des dépenses de fonctionnement. Vous avez là un autre graphique qui les présente, ces dépenses, sous une forme un peu différente. Donc, je vous laisserai le découvrir. Les ressources. Donc, les ressources, la première, c'est celle qui nous concerne le plus en tant qu'entreprise. C'est celle qui recouvre les recettes fiscales, directes et indirectes. Ensuite, vous avez les transferts et compensations de l'État. C'est tout ce que l'État verse aux collectivités, soit pour compenser des recettes qu'elles devraient percevoir et qu'elles n'ont pas perçues et que l'État compense, les subventions de l'État, mais aussi de tout organisme public, région, département, subvention de la région au département, de la région à la commune, du département à la commune, les recettes pour services rendus, les recettes domaniales, on les détaillera un petit peu après, les dotations d'équipement d'investissement, les emprunts, et puis éventuellement la capacité d'autofinancement. Si on s'arrête deux minutes sur les dotations et subventions de l'État, nous avons donc les dotations de compensation que j'évoquais à l'instant. Par exemple, dès qu'il y a une baisse d'impôt, une exonération d'impôt, la question se pose de savoir si l'État compense ou pas. La dernière baisse que nous connaissons, la dernière et l'actuelle et la future, c'est la CVAE, donc diminution de 50% il y a 2 ans, suppression en 2 années et compensation par l'État se servir des recettes de TVA pour compenser aux collectivités la suppression de la TVA. Il y a aussi, dans ce que perçoit l'État, le coût de la TVA sur certaines dépenses. Les collectivités ne récupèrent pas la TVA puisqu'elles sont considérées comme des consommateurs finaux, mais il y a un dispositif qui est assez spécifique à la France qui s'appelle le fonds de compensation de la TVA et qui fait que l'État verse aux collectivités une partie du coût de la TVA qu'elles supportent sur leurs achats. Deuxième ressource, ce qu'on appelle les dotations de péréquation pour réduire les inégalités entre collectivités de même niveau, donc entre communes, entre départements. Il y a des communes riches, des communes pauvres. Pourquoi ? Parce que certaines ont, par exemple, beaucoup d'entreprises sur leur territoire qui leur payent beaucoup de CFE et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Et on considère que c'est assez injuste et que donc il faut que l'État verse des dotations de péréquation, rééquilibrage, pour que les pauvres soient moins pauvres et les riches soient moins riches. Parce que quand on prend la péréquation, c'est prendre aux uns pour donner aux autres. Alors ça a quand même des effets pervers, puisque ça peut être moins favorable à une collectivité qui gère bien ses finances et qui se voit à laquelle on retire des ressources pour les donner, à une d'à côté qui gérerait moins bien, qui aurait plus de dettes de ceci, qui gérerait moins bien ses impôts. Donc c'est péréquation, mais pas toujours très juste. Les dotations et subventions d'investissement attribuées par l'État aux collectivités pour leurs projets d'investissement, par exemple, j'ai cité là les dotations d'équipement des territoires ruraux, les dotations de soutien à l'investissement local, notamment pour la rénovation énergétique, il y a pas mal de subventions. Pour la politique de la ville aussi, l'État attribue aux collectivités des subventions. Et puis, les subventions de la région, du département, de l'ADEME, des agences de l'eau, toutes subventions que les communes, par exemple, peuvent obtenir sur certains projets et dans le cadre des négociations avec les différents organismes.
On a une petite question sur le versement des dotations de compensation qui seraient versées tardivement par l'État. Les dotations de compensation, est-ce qu'elles sont effectivement versées? Est-ce que vous allez aborder
qui pose la question? Je crois un sujet assez de discussion assez fréquent entre les collectivités et l'État, puisque les collectivités se plaignent beaucoup d'abord que les dotations de compensation ne compensent pas toujours les pertes d'impôts ou exonérations. Et on l'a vu par exemple avec la suppression de la taxe d'habitation où les collectivités disent, mais bon, je ne suis pas allée faire les calculs, mais disent que la compensation qui leur est attribuée par l'État n'est pas égale à la perte de recettes qu'elles subissent. Et très souvent, la première année de compensation, effectivement, ça compense à peu près, on calcule combien les collectivités percevaient de taxes d'habitation, par exemple, et on leur verse, la compensation est à peu près juste. Et puis au fil du temps, ben, la compensation s'amenuise, elle n'est pas équivalente à ce que les collectivités auraient réellement perçu, et les collectivités se plaignent d'avoir des compensations qui ne sont pas à la hauteur du préjudice, en tout cas de la perte de recettes. Et effectivement, elles se plaignent aussi de ce que souvent les compensations sont versées un peu tardivement par l'État. Mais là, bon, on est hors de ma sphère de droit d'intervention.
On a également une question sur les dépenses d'intervention. Que sont les dépenses d'intervention?
Les dépenses d'intervention. Alors, où est-ce que j'ai dit ça, les dépenses d'intervention? Je finis par plus savoir ce que j'ai dit. J'étais sur quel slide? Celui d'avant. J'arrive pas à revenir en retard. Attendez, j'essaye de retrouver pour pouvoir vous répondre. On est dans les dépenses et pas dans les ressources. Bon, vous me laissez 2 minutes, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon. Où en étais-je? Ça, donc au slide du coup. Slide 12, j'ai perdu mon fil. Alors, une fois qu'on a défini quelles sont les dépenses et les ressources que peuvent percevoir ou exécuter les collectivités, ce qui est important à savoir, c'est comment le budget des collectivités locales est construit et adopté. Pourquoi c'est important? Parce que l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre, en comprenant comment les budgets sont construits et quelle est la procédure d'adoption, de savoir à quel moment les MEDEF, les entreprises, les citoyens peuvent essayer d'agir pour convaincre les collectivités d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est l'objet du MEDEF. Hein. Donc, pour savoir quand agir et pour savoir comment discuter avec les collectivités locales, il est important de connaître les procédures. Donc la procédure d'adoption et de construction et d'adoption du budget des collectivités locales, elle est la suivante. Il y a 4 ou 5 étapes. J'ai perdu mon slide. Je suis Sur lequel là? Sur
le 18.
Le 18, mais voilà, je suis allée. J'en aurais pas, excusez-moi, j'en aurais pas raté du coup. Voilà, donc j'étais. Est-ce que je suis passée sur les ressources? Voilà, bon, la procédure budgétaire et son calendrier, ça c'est le. Je pense que j'ai. Voilà, j'ai un problème. Donc l'étape 1. L'étape 1, c'est le débat d'orientation budgétaire. Il y a un débat d'orientation budgétaire obligatoirement pour toutes les collectivités, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un peu comme le débat d'orientation budgétaire au niveau de l'État. Il permet, sur la base d'un rapport qui est établi préalablement, d'informer les élus sur la situation financière de la collectivité et les grandes lignes du budget qui sera proposé par l'exécutif, c'est-à-dire le maire, le président de l'intercommunalité, le président de département ou le président de région. Et donc, on fournit aux membres du conseil toutes les données financières et tous les objectifs que le maire veut fixer un peu avant ce débat d'orientation budgétaire qui doit se tenir dans les 2 mois avant le vote du budget, et dans les régions, 10 semaines. C'est un débat public, et la délibération adoptée est publiée. À peu près tous les actes, conseils municipaux, départementaux ou autres, sont publics. Ah, il faut le savoir, n'importe quel citoyen peut assister à un conseil municipal, et notamment à celui qui traite du budget. L'étape 2, c'est l'évaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement. Alors, on a les dépenses contraintes, ben ça, les charges de personnel, les intérêts d'emprunt, l'entretien de la voirie, tous les contrats que la collectivité peut avoir passés, c'est ce qui concerne la formation du personnel, la rémunération, enfin, c'est pas vraiment des rémunérations, c'est des... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas vraiment des rémunérations des élus, tout ce qui concerne le sport, les animations.
Une question ?
Et puis, toutes les recettes domaniales, des recettes des domaines, des propriétés immobilières, des services rendus, et puis les impôts et taxes. Et donc, quand vous évaluez les dépenses et les recettes, vous n'avez qu'une variable d'ajustement, parce que ça, c'est à savoir, il y a quelque chose d'important, on y reviendra peut-être, c'est que les dépenses des collectivités sont contraintes et les recettes, elles dépendent essentiellement des recettes fiscales. En gros, la fiscalité, c'est la seule variable d'ajustement des budgets des collectivités, mais on y reviendra après la procédure. Donc ensuite, l'étape 2, quand ils ont évalué les dépenses et les recettes de fonctionnement, ben, c'est le vote de l'équilibre de la section de fonctionnement, celle dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est la plus importante. L'étape 3, c'est à peu près la même chose, évaluation des dépenses et des recettes qu'on appelle d'investissement. Donc, dans la section d'investissement, vous avez les dépenses contraintes, les remboursements des annuités d'emprunt et les dépenses variables. C'est tout le programme d'investissement décidé par la collectivité. Et dans les recettes, vous avez le virement des recettes de la section de fonctionnement, le fameux remboursement sur la TVA par le fonds commun, par le fonds de compensation de la TVA. Les subventions d'investissement de État, région, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis l'emprunt, donc qui est, lui, la variable d'ajustement des dépenses d'investissement. Les collectivités peuvent s'endetter, souscrire des emprunts pour leurs dépenses d'investissement uniquement. Et donc, la fin de cette étape, c'est le vote de l'équilibre de la section d'investissement. L'étape 4, c'est le vote du budget, donc soit par le conseil municipal, soit par le conseil départemental. Le vote des taux d'impôts et taxes, avec une date limite légale du vote du budget et des votes des taux, qui est le 15 avril de l'exercice. Donc pour 2023, tout ça sera voté au plus tard le 15 avril 2023. Et la dernière étape, c'est le contrôle de légalité. Quand le budget est voté, il est transmis au préfet et le préfet a un mois pour se prononcer et valider le budget voté par la collectivité locale. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je répète, tout ça est public. La collectivité doit afficher le conseil municipal, par exemple, pour prendre une commune au cours duquel le budget sera débattu et voté. Ça doit être affiché sur le tableau d'annonce légale de la collectivité et c'est public.
On a une question sur le financement des collectivités locales par la TVA. La Cour des comptes critique le financement des collectivités locales par la TVA. Quelle alternative ?
Pas sûr que la Cour des comptes critique le. Ce que la Cour des comptes critique, c'est la compensation, par exemple, de la CVAE par une attribution d'une part de TVA. Donc, on prend une part de la TVA perçue par le budget de l'État au niveau national et une part, et cette part est affectée aux collectivités pour compenser la perte de recettes, due par exemple à la suppression de la TVA. Mais pour nous, il n'y a pas d'alternative. Dans les propositions du MEDEF que nous avons faites depuis des années pour supprimer les impôts sur les facteurs de production, nos deux proposition de compensation, pour autant qu'on puisse être légitime à se prononcer, c'est soit une part d'IS, soit une part de TVA. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'État qui prend sur son budget pour compenser aux collectivités les pertes de recettes, ça veut dire qu'on cherche une recette de substitution et probablement, et c'est ce que demandent souvent les collectivités, un nouvel impôt. Par exemple, les collectivités, ces derniers temps, demandent pour certaines d'entre elles un IS local, c'est-à-dire un impôt sur les sociétés qui serait voté au niveau local avec un taux décidé par les collectivités, ce qui signifierait qu'on aurait un sur-IS, en plus du taux de l'IS à 25%, un plus d'un 1%, 2%, 3% qui serait voté par la collectivité. Or, on a pu constater au fil du temps que tous les impôts dont les collectivités locales avaient, sur lesquels les collectivités avaient un pouvoir de taux, avaient une tendance forte à l'augmentation à la fois des bases et des taux. Quand la réforme de la taxe professionnelle a été fondée en partie sur cette observation où pendant 20-30 ans, vous aviez les bases de taxes professionnelles qui montaient et puis les taux qui montaient à peu près parallèlement. Et des collectivités qui, du coup, étaient très incitées à la dépense, je dirais, puisque quand on sait qu'on peut augmenter... Dans une entreprise, c'est pas vous qui décidez de votre chiffre d'affaires. Dans les collectivités, pendant longtemps, bien, c'est elles qui, en augmentant les taux, décidaient de leur chiffre d'affaires indépendamment de la capacité des contribuables à payer, je dirais. Donc, pour nous, une compensation par un impôt d'État reversé, c'est le meilleur moyen d'éviter une hausse de la fiscalité trop importante, sachant que nous sommes très sensibles aux arguments des collectivités locales qui nous disent qu'il est nécessaire pour elles d'avoir des recettes qui sont en lien avec l'activité économique réalisée sur leur territoire. Alors, elles ont des arguments plus ou moins recevables. Certaines nous disent, de toute façon, si on n'a plus aucun intérêt fiscal, financier, à avoir des activités économiques sur notre territoire, par exemple des activités industrielles qui polluent, eh bien, on refusera toute activité économique. Il y en a d'autres qui ont des raisonnements un peu plus responsables et qui nous disent, mais nous, nous fournissons énormément de services pour les entreprises, des routes, des zones d'activité, et on a besoin de les financer, et il est logique que les entreprises qui profitent de ces services, les financent aussi, au moins en partie. Et ça, c'est quelque chose que nous entendons tout à fait et que les entreprises localement acceptent bien volontiers. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec la suppression de la CVAE, nous avons milité pour que la part de TVA qui va être reversée aux collectivités en compensation de la suppression de la CVAE, soit assis sur un critère d'activité. Alors, on ne sait pas lequel, parce que tout ça est en discussion avec entre les pouvoirs publics et les collectivités, mais une partie de la compensation de TVA sera fonction de l'activité économique sur les territoires des collectivités qui vont percevoir cette compensation. Je reviens d'ailleurs sur la question concernant les compensations, il y a eu une nouveauté depuis la suppression de la CVAE pour éviter justement ce que je disais tout à l'heure, à savoir que sur la durée, les compensations de suppression d'impôts ne suivent pas. Pour la CVAE, le dispositif est conçu de telle façon qu'au fil du temps, la compensation TVA de la suppression de la CVAE prendra en compte l'évolution théorique de l'activité de la CVAE, c'est-à-dire que si la CVAE avait continué d'exister, compte tenu de l'augmentation des activités économiques sur le territoire, elle aurait cru progressivement, et bien dans la compensation, cette augmentation théorique de la CVAE devrait être prise en compte. Donc pour la compensation CVAE, les collectivités locales devraient avoir une compensation dynamique pour cette partie liée à l'activité économique. Alors, où en étais-je ? Pas de questions ?
On ne vous entend plus.
Ah, vous m'avez perdu à quel moment ?
Juste au moment où vous avez tourné le slide.
D'accord. Alors, ben justement, je vais récupérer mon slide. C'est le 23. Voilà, je disais donc que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une espèce d'antinomie entre les entreprises et les collectivités. Les capacités contributives des entreprises, elles évoluent en fonction de leurs activités. Les besoins des collectivités locales, elles évoluent tendanciellement à la hausse, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et évidemment, il y a un hiatus entre les deux, puisque les entreprises disent, ben moi, j'ai une baisse d'activité et mon impôt, il continue à augmenter. Et les collectivités disent, ben moi, j'ai des dépenses en hausse, donc il faut que j'augmente vos impôts. C'est pour ça que les collectivités locales aiment tant les impôts à rendement fixe, par exemple sur le foncier, et les collectivités souhaitent des impôts qui varient selon leur capacité contributive. On l'a bien vu au moment de la crise Covid, la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est très liée à l'activité économique, elle a énormément baissé pendant la crise Covid pour toutes les activités qui étaient impactées. En revanche, les impôts fonciers, eux, ils n'ont pas bougé. La valeur locative foncière, elle est restée ce qu'elle était, et donc l'impôt est resté dû, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Et c'est cette espèce de double antinomie qui est largement à l'origine des incompréhensions entre les entreprises et les collectivités locales, et des relations parfois un peu tendues, parce que on ne parle pas de la même chose. Et c'est pour ça que nous sommes très hostile à tous ces impôts qui restent dus, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Alors, quels sont les impôts payés par les entreprises et à quelles collectivités ? On a la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, qui n'est perçue que par le secteur communal, donc commune ou intercommunalité. La taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, perçue également par le secteur communal. La CVAE, qui est perçue par les communes et les départements et qui a été supprimée aux régions il y a 2 ans maintenant. La taxe sur les surfaces commerciales, qui est perçue par les communes depuis la suppression de l'ATP. La taxe ordures ménagères communes aussi. Les IFER, impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau, c'est un impôt particulier sur les conduites de gaz, le réseau téléphonique, les trains, le réseau ferroviaire. Elle est perçue par toutes les 3 types de collectivités. Et la taxe GEMAPI, qui est la taxe sur la gestion de l'eau, qui est perçue par les communes. Nous avons aussi la taxe locale sur la publicité extérieure, perçue par les communes à leur initiative. Toutes les communes ne perçoivent pas la TLPE. Les droits de mutation à titre onéreux, c'est les droits de mutation sur les ventes d'immeubles, secteur communal et département. La TICPE, c'est les taxes sur les carburants, la consommation de produits énergétiques, département et région. La taxe sur les cartes grises région et la taxe sur les contrats d'assurance département sont les principaux impôts. Il en existe toute une myriade d'autres, les taxes d'aménagement, les taxes d'urbanisme. Et puis, on a le versement mobilité, ex-versement transport, qui, lui, est perçu par des autorités organisatrices de mobilité qui sont des émanations des collectivités locales, notamment les régions et les métropoles. Les impôts directs locaux en 2021, donc ça c'est les derniers chiffres dont nous disposons et qui vous montre que le produit de la fiscalité directe des collectivités locales était de 64,9 milliards d'euros en 2021 avec 15% de CVAE, de cotisation sur la valeur ajoutée, et la plus grande partie, 55% de taxes foncières et 11% de cotisation foncière des entreprises. Donc la taxe, les taxes foncières, CFE et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, représentent 66% des impôts locaux perçus par les collectivités locales. Et à côté de ça, si on rajoute les autres impôts et notamment les taxes énergétiques, voilà, les taxes énergétiques, versement mobilité, taxes sur droits de mutation, on a un total de 157 milliards d'euros. Donc sur c'est largement plus, c'est la grande majorité des ressources des collectivités. Si on passe à ce que payent les entreprises, parce qu'il y a une différence entre ce que perçoivent les collectivités et ce que perçoivent les entreprises, parce que pour certains impôts, il y a des dégrèvements ou des plafonnements qui font que entre ce que paye l'entreprise et ce que perçoit la collectivité au titre de ces impôts, il y a une différence qui peut être assez importante. Et vous avez là donc les principaux impôts payés par les collectivités en milliards d'euros au titre de chacun des impôts. Au-delà des montants, ce qui est important, c'est de savoir sur quels impôts la collectivité a un pouvoir d'action, a un pouvoir de taux. Et on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir la capacité de la collectivité à augmenter ses recettes indépendamment de l'activité. Les principaux impôts dont les collectivités votent le taux, c'est la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, et également, que je n'ai pas cité là, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont je dois parler un petit peu plus loin. Sur ces trois impôts que vous avez sur le slide, la base d'imposition est la même, c'est la valeur locative cadastrale, mais avec des abattements différents selon l'impôt. On a deux types de valeurs locatives. La valeur locative des locaux dits professionnels, qui est la valeur qui est égale au produit de la surface du bien multiplié par un tarif au mètre carré qui est fonction des loyers réellement constatés et faire éventuellement affecter d'un coefficient de localisation, de beaucoup de choses. C'est assez compliqué. Ce qui veut dire en gros que cette valeur locative, elle dépend réellement du marché locatif. Ça a fait l'objet d'une réforme en 2015. Et il y a une mise à jour périodique des paramètres qui est prévue par la loi. Tous les six ans, on revoit ces valeurs locatives en fonction de l'évolution du marché locatif. Il y a des commissions départementales qui réunissent des représentants des entreprises, dont le MEDEF, des représentants des collectivités locales par département et l'administration fiscale qui fournit les données. Et la valeur locative est remise à jour. Et la première mise à jour devait entrer en vigueur en 2023. Et vous savez peut-être que les travaux des commissions départementales ont permis de mettre en évidence des risques importants d'augmentation de ces impôts, de ces valeurs locatives et donc de ces impôts. Et par conséquent, le MEDEF, qui est d'ailleurs la seule organisation professionnelle à avoir agi, a écrit au ministre, une lettre de Geoffroy Roux de Bézieux aux deux ministres concernés. Les collectivités locales se sont également émues de ces évolutions. Et il a été décidé, on a reçu une réponse des ministres assez rapidement, nous disant qu'ils avaient bien compris. Et en dernière loi de finances, cette mise à jour a été reportée à 2025. Ce qui signifie que... Il n'y aura pas cette évolution des valeurs locatives en fonction des loyers, mais en contrepartie, la loi a prévu que ces valeurs locatives seraient automatiquement réévaluées du coefficient forfaitaire prévu par la loi pour les autres valeurs et qui est de 7,1% cette année. Donc, on va avoir de toute façon une augmentation des valeurs locatives et non des taxes de 7,1% en 2023. Ces commissions départementales et ces mises à jour des valeurs locatives, c'est un sujet extrêmement important dont les entreprises doivent se saisir, enfin en tout cas nos MEDEF territoriaux, et ils sont très, très engagés pour essayer de limiter les hausses autant que possible. Alors par exemple, pour vous donner les taux moyens d'imposition pour 2021 et 2022, pour la CFE, en 2022, 26,5, taxe foncière 37,72, taxe foncière non bâtie 50%, c'est des taux extrêmement importants, ce sont les taux moyens. Et en 2023, la CFE augmente un petit peu, tout augmente un petit peu, 26,56, 38,28, 50,44. Donc ça, c'est les taux moyens d'imposition qui avaient été votés en 2022 pour 2023. Mais là, les taux qui vont être votés en 2023 pour la prochaine imposition vont fortement augmenter. On a déjà des prises de position des collectivités locales pour des augmentations de taux, notamment sur le foncier bâti, extrêmement importante. À titre d'exemple, la mairie de Paris a annoncé une augmentation de ses taux de 50%. Mais ça n'est pas la seule. Grenoble, Bordeaux, je crois, enfin, énormément de collectivités ont annoncé des augmentations très importantes des taux de taxes foncières. À savoir, il existe un dispositif de liaison des taux. Les taux de cotisation foncière des entreprises sont liés au taux de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors, c'est extrêmement compliqué, comme il est indiqué là, le taux de CFE ne peut pas augmenter ou diminuer plus que le taux de taxes foncières ou le taux moyen pondéré des deux taxes foncières constatées sur le territoire de l'intercommunalité. C'est très compliqué. L'objet de cette liaison des taux, c'est d'essayer d'éviter que les collectivités locales augmentent les taux de CFE, parce que c'est toujours plus facile d'augmenter un taux sur une entreprise qui ne vote pas que d'augmenter des taux sur les impôts payés par les ménages qui, eux, votent. Alors, cette liaison des taux était très efficace quand il y avait la taxe d'habitation. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et je crois que, par exemple, à Paris, la maire de Paris s'est bien fichue de savoir si elle augmentait les ménages ou pas. Elle a augmenté les taxes foncières sur les propriétés bâties. C'est autant, voire plus, les ménages que les entreprises. Voilà, donc pour rappel, ce que je disais tout à l'heure, tous les taux d'imposition et le budget doivent être votés avant le 15 avril. Donc là, si on veut essayer de convaincre les collectivités locales de ne pas trop augmenter les taux des impôts fonciers, bah, il faut se dépêcher d'aller les voir et de leur expliquer que non, c'est pas possible, qu'ils ont déjà 7,1% d'augmentation des bases et que s'ils pouvaient éviter d'augmenter les taux, ce serait bien. Bon courage. Voilà, donc je vais rappeler un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Un petit focus sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui vise à financer la collecte des déchets ménagers. C'est la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, à savoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exclusivement destinée à financer les dépenses de collecte et de traitement des déchets qui sont précisément listées par la loi. On a des collectivités qui ont utilisé les recettes de taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour toute autre chose. Il y a eu des contentieux, elles ont perdu. Je sais que les collectivités dans les instructions que l'administration fiscale, qui est l'autorité de tutelle des collectivités et d'aide aux collectivités pour tout ce qui concerne leur budget, il est maintenant indiqué explicitement à destination des collectivités qu'elles fassent bien attention à ne pas utiliser les recettes de taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères pour autre chose que pour ce que la loi prévoit. Mais ça vaut le coup de vérifier et de surveiller ça. Et donc, les taux de TOM, il faut bien les regarder parce qu'ils ne doivent pas être disproportionnés par rapport au niveau des dépenses à financer. Donc, quand on voit un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est très élevé et qui, compte tenu des bases, conduirait à des recettes manifestement disproportionnées par rapport au niveau des dépenses à financer, que l'on connaît, hein, quand on, en tout cas que l'on peut connaître, que l'on peut demander aux collectivités, il faut faire... avoir une action en direction des collectivités pour qu'elles corrigent ça. Et c'est pas, enfin, jusqu'à présent, c'était assez fréquent.
Donc, on a une petite question. Les communes ont-elles une totale autonomie fiscale pour adopter des taxes locales?
Non. Elles ne peuvent pas créer n'importe quelle taxe au niveau local. Hein. La création d'une taxe, elle est constitutionnellement affectée au Parlement. Donc, les collectivités ne peuvent pas adopter ce qu'elles veulent. En revanche, les taxes qui sont, comme je citais tout à l'heure, la taxe locale sur la publicité extérieure, là, la loi prévoit la possibilité pour les communes d'instituer ou non cette taxe. Il y a 2-3 autres taxes que les collectivités peuvent instituer ou pas, mais elles peuvent pas créer une taxe comme ça, parce qu'elles auraient besoin de ressources et elles décident, je sais pas, de ça exister, une taxe sur les chiens, une taxe sur les fenêtres, non, la collectivité ne peut pas faire ça. Quelques autres impôts locaux, donc ceux sur lesquels les collectivités ont un pouvoir de taux. La TASCOM, donc la taxe sur les surfaces commerciales, les collectivités ont un pouvoir de taux assez faible. Elles peuvent augmenter ou diminuer le taux de plus 3,5%, je crois, je dis peut-être une bêtise. Enfin, dans une certaine marge de manœuvre, j'en ai vu beaucoup qui ont augmenté, j'en ai vu aucune qui a baissé. La taxe GEMAPI, donc c'est la taxe sur la gestion de l'eau, là, elles ont une influence sur le taux, la TLPE, la taxe sur les friches commerciales que les collectivités peuvent décider d'instituer ou pas, le versement mobilité, vous savez que le versement mobilité, il y a des taux plafonds qui dépendent des régions et les autorités organisatrices de mobilité, les collectivités locales, peuvent fixer le taux en deçà ou jusqu'au plafond, et les taxes d'aménagement, qui sont les taxes que les collectivités perçoivent pour toute opération d'aménagement. Ensuite, nous avons la CVAE. Donc, CVAE, c'est un taux national. L'IFER, c'est un taux national. L'imposition forfaitaire sur les pylônes, c'est un taux national. Et il y a un certain nombre d'autres taxes. Il y en a trop pour que je vous les cite. Voilà. Les taxes facultatives, justement, celles dont les collectivités ont la liberté d'institution, pas la TLP, les principales, TLPE, taxes sur les friches commerciales, la taxe sur les activités commerciales saisonnières, les taxes de séjour, la taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI, donc gestion de l'eau, il ne doit plus rester beaucoup de collectivités qui ne l'ont pas instituée. Donc là, ce qu'on peut faire en action d'influence, eh bien, c'est convaincre la collectivité de ne pas adopter ces taxes, quand vous avez une intercommunalité qui instaure une taxe sur les friches commerciales. Alors, une friche commerciale, c'est un commerce qui est fermé depuis un certain temps et qui est inutilisé. L'intercommunalité qui instaure une taxe sur les friches commerciales, en vous disant, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai pas mal de friches sur mon territoire, je préfère instaurer une taxe sur les friches commerciales au lieu d'augmenter la taxe foncière, ça se justifie, ça se négocie. Et la taxe sur les friches commerciales, au-delà de la recette qu'elle peut permettre temporairement aux collectivités locales, elle a l'avantage d'inciter à la réinstauration d'une activité économique.
Alors, on a une petite question. Comment s'articule la TEOM avec l'éco-contribution de la REP déchets?
Aucun rapport. Les REP, donc les REP, je ne sais plus ce que veut dire.
Responsabilité élargie du producteur.
Élargie du producteur, merci. C'est totalement indépendant de l'impôt local. C'est ce qu'on appelle des redevances facultative obligatoire, il y a une dénomination qui me fait toujours sourire. C'est totalement indépendant, c'est de l'écologie, enfin, c'est pour le recyclage, et c'est totalement indépendant, et ça coexiste complètement. En revanche, vous avez une redevance pour enlèvement des ordures ménagères, qui, elle, est un impôt. C'est une taxe, c'est totalement indépendant du service rendu. Donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et nous travaillons sur ce sujet, elle est due par toute entreprise ou ménage, quand bien même celui-ci n'utiliserait pas le service. Une entreprise, il y en a de plus en plus, qui s'occupe de ses déchets, donc qui ne fait pas du tout appel au service de la collectivité locale pour ses déchets, est quand même redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, si c'est une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qui dit redevance dit service rendu, et là, la redevance n'est payée que par ceux qui utilisent le service. La taxe, elle, est indépendante de l'utilisation du service. Et donc la REP, contribution obligatoire, est totalement indépendante des ordures. La TOM, c'est les ordures ménagères. Les REP, déchets ou autres, c'est vraiment le recyclage et c'est pas le service de collecte des ordures et de traitement. Et c'est vrai que tout ça n'est pas nécessairement cohérent, surtout s'agissant des déchets. On vous a mis là quelques liens utiles. Où on trouve énormément d'informations, l'Observatoire des finances et la gestion publique locale, les chiffres clés des collectivités locales, les collectivités locales en chiffres, où vous avez... Et alors, je vais revenir en arrière, parce que je suis allée trop vite tout à l'heure quand la question m'a été posée, à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs, et je crois que j'ai sauté une bonne partie de ma présentation. C'est la première fois que ça m'arrive. Vous pouvez la remettre. Je vais du coup. C'est moi qui ai fait ça. voilà. Donc, je ne sais plus où je me suis arrêtée tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûre d'être passée sur ces slides-là. Sur. C'est quel numéro, là ?
Ça, c'est le 12.
Oui, je crois que je suis passée. Je ne sais pas alors, comment je me suis débrouillée.
Alors, les dotations de péréquation, on l'avait vu.
Oui, mais peut-être moins en détail. Donc, j'ai complètement. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Si ça, on a vu. Non, je ne vous ai pas cité les paillotes quand même, c'était important. Dans les recettes domaniales, tous les loyers, tous les services publics locaux, les cantines, le périscolaire, les équipements sportifs, funéraires, tout ça, ce sont des recettes des collectivités locales. Je ne suis pas sûre que ça recouvre totalement le coût pour les collectivités, hein, parce que les coûts des cantines, du périscolaire, des équipements sportifs sont probablement bien plus élevés que les recettes qui sont perçues auprès des usagers. Mais il y a les rémunérations pour occupation du domaine public qui peuvent être assez significatives, donc les terrasses. Chaque fois que vous avez une terrasse, tous les restaurants qui mettent des terrasses, les marchés, le réseau EDF, tout ça, et les paillotes sur les plages, ça c'est un prisme régional, payent des redevances aux collectivités. Donc les recettes fiscales, on les a vues. Si, je crois qu'on a... On a tout vu. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions de plus.
C'est vraiment important de connaître ça, de surveiller. Et puis surtout, je dis ça surtout pour les représentants des MEDEF qui sont là, d'avoir des relations régulières avec les collectivités locales pour bien comprendre comment elles fonctionnent et je dirais pour bien se comprendre. Parce que ce que je disais tout à l'heure, on a tendance de notre côté à pas bien comprendre les collectivités locales et leurs contraintes, et Dieu sait si elles en ont, et les collectivités locales sont parfois persuadées que on peut augmenter l'impôt sur les entreprises de manière continue, ça se voit en ce moment, nous avons des discussions assez vives dans certaines régions où... par exemple, je ne sais pas si je dois la citer, mais une région dans le sud de la France où la métropole a pris contact avec les représentants des entreprises en disant « nous, on a un métro à financer, ça nous coûte plus cher que prévu parce qu'il y a la crise, tout a augmenté, donc on vous propose le marché suivant, soit vous nous aidez à augmenter les taux du versement mobilité ». Pourquoi demande-t-il l'aide ? Parce que le versement mobilité, le taux est fixé par la loi. Donc, quand une collectivité est au plafond, si elle veut que le Parlement vote un taux plus élevé, il faut qu'elle convainque le Parlement et le gouvernement. Et si elle vient en disant « les gens qui vont payer, ils sont d'accord pour payer plus », ce sera probablement plus facile. Donc, cette métropole a dit… je vous donne le choix entre nous aider à augmenter le taux maximum du versement mobilité ou subir une augmentation de taxes foncières de 50%. Personnellement, j'appelle ça du chantage. Mais voilà, donc de l'intérêt de se parler et d'essayer d'être présent auprès des collectivités locales pour porter les intérêts des entreprises et les contraintes.
Non, j'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles questions. Par contre, juste préciser que le support vous sera adressé à l'issue de la présentation.
Et que je peux assurer un certain service après-vente, notamment pour répondre à la question de tout à l'heure.
Voilà, en tout cas, on arrive au terme de ce webinaire. Effectivement, n'hésitez pas à écrire à Marie-Pascale s'il y a des interrogations qui... Ah, il y avait la question sur les dépenses d'intervention. Apparemment, c'était dans le.
Oui, c'est quel slide, celui-là ?
C'était sur le. C'était sur le camembert, je crois. Le slide 8, il me semble.
Ah oui, le slide 8. Mais c'est toutes les dépenses Je dois avoir ça sur mon petit document. Vous me laissez 2 secondes. Toujours un jargon dont on ne sait plus. Oui, ah oui, c'est tout. C'est essentiellement les dépenses à caractère social au secteur associatif, à toutes les associations et tous les équipements des collectivités locales. Donc, c'est un gros poste de dépenses. Tout ce qui n'est pas économique, en gros. Enfin, beaucoup de ce qui n'est pas économique. Essentiellement l'associatif. Ouais, après, dépenses d'équipement, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ?
On n'a pas d'autres questions.
Non. Donc, en tout cas, la grande réforme qui va intervenir, c'est la suppression de la CVAE hein, dans les 2 ans qui viennent. Donc, cette année, elle est divisée par 2, et l'an prochain, on n'aura plus de CVAE. Ça fera une baisse de recettes pour les collectivités de 7 milliards et une baisse de taxes pour les entreprises d'un peu moins de 7 milliards parce que la CVAE étant une charge déductible comme toute charge, mécaniquement quand vous diminuez les charges déductibles, vous augmentez votre bénéfice et donc quand il y en a et donc l'impôt sur les sociétés à payer. Et tout l'enjeu dans les relations avec les collectivités locales, ça va être justement d'éviter que les collectivités compensent la perte de la CVAE par des augmentations essentiellement des impôts fonciers ou du versement mobilité. À titre d'exemple, lors du débat parlementaire, Valérie Pécresse a essayé de faire voter une augmentation du taux maximum de versement mobilité en région Île-de-France. Et parmi ces arguments, il y avait les entreprises vont bénéficier d'une baisse de la CVAE, elles peuvent bien payer un peu plus de versement mobilité. Voilà, ça pose un peu le débat de nos discussions avec les collectivités locales, mais qu'il ne faut pas caricaturer parce qu'on a quand même côté des collectivités locales et je trouve que ça a pas mal évolué ces derniers temps, une volonté d'aider au développement économique, d'aider à la transition écologique qui peut faire l'objet de débats et de dialogues intéressants avec les collectivités.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.